C'est la responsabilité permanente. Il faut que la base soit désormais mise en mesure parce que les temps ont changé, parce que l'éducation, malgré tout, enfonce ses racines dans la conscience populaire, loin du compte. Mais nous devons préparer le temps qui vient, c'est-à-dire les 30 ou 40 années prochaines, où tout de même, chaque citoyen sera mieux mis en mesure de juger, de faire agir sa raison sous les impulsions de ses sentiments, et le cas échéant, de ses enthousiasmes. Mais la responsabilité permanente, par le contrôle permanent, la discussion, j'allais dire permanente, bien que j'en sois tout d'un coup quelquefois un peu lassé, mais enfin la discussion utile, qui permette à la base désormais responsable de se sentir co-gérante ou co-propriétaire des décisions qui engagent notre peuple. C'est, à mon avis, voyez-vous, et c'est là que j'attache beaucoup d'importance aux événements de mai, c'est, je crois, le plus grand tournant de ce point de vue. Il y en a eu d'autres, je serais naïf de le taire. Depuis 1789, je veux dire dans notre société française, ça a été une immense victoire pour les républicains. Oh, ils n'étaient pas tellement républicains à l'époque, ils étaient même souvent encore monarchistes. En tout cas, pour les révolutionnaires de 1789, que de substituer la notion de justice déléguée à la notion de justice retenue, et donc d'assumer une responsabilité au niveau d'une assemblée constituante et au niveau d'un jury populaire. On s'est donc contenté ensuite de déléguer à des élus du peuple, qui étaient de moins en moins des élus du peuple, parce qu'ils oubliaient le peuple, parce que le peuple ne les contrôlait plus, parce que le peuple s'abandonnait dans l'intervalle à la confiance de moins en moins justifiée qu'il faisait à ses élus, et on s'est rendu compte soudain que les représentants du peuple avaient volé le peuple de sa révolution. La loi doit être le résultat de l'élaboration et de la responsabilité permanente. Et quand la notion de la loi aura changé en France, beaucoup de choses se seront modifiées pour notre peuple si amoureux des formes et du fond juridique. Cependant, ce que je vous dis là, permettez-moi de vous le dire, c'est exactement l'exposé que j'ai fait le 5 mai 1968 dans le département de l'Allier, avant même que ne se déroule l'ensemble des événements, de telle sorte que j'exprime là une pensée qui vient de plus loin que la circonstance. Puis, disons les choses, est-ce que je vais encore en choquer certains? Enfin, j'ai décidé de dire ce que je pensais. À mon avis, c'est une révolution de l'esprit. C'est l'expression d'un besoin de spiritualité. Je crois que la simple société mécaniste, je crois que l'explication purement marxiste, on finit tout en rendant de grands services et en continuant d'avoir une immense part de vérité. On finit par préférer l'instrument et le moyen à la fin, et par oublier l'homme au passage. Et l'homme s'est rappelé à son souvenir. Bon, maintenant, des propositions. La fédération. Pour l'instant, nous sommes dedans. Et on ne détruit pas avant d'avoir reconstruit. J'entends dire souvent, d'ailleurs, ce n'est pas si longtemps, sous les applaudissements, il faut balayer la fédération. Quelquefois, je me dis, mais ce sont des pensées à moi tout seul que j'ai quelquefois tort de donner en public, je me demande quelquefois si le rêve de la gauche, d'une certaine gauche, et spécialement de la nôtre, n'est pas de se dire, de ne pas considérer comme insupportable le poids de ces 16,5% de citoyens qui votent pour nous, et que ce serait si merveilleux de commencer à partir d'un 1,5%. Nous serions dégagés de beaucoup d'obligations, ce serait plus aisé, nous n'aurions pas de corps électoral devant lequel nous aurions à rendre des comptes, nous n'aurions pas à savoir, après tout ce qui est un peu embêtant, comment fonctionnent les adductions d'eau, et nous pourrions faire une politique non contestée, sauf par nous-mêmes, puisqu'il n'y aurait personne en dehors de cette salle qui saurait que nous existons. Bref, c'est un immense échec d'être tombé de 18 à 16%, mais c'est un grand succès d'être resté à moins de 2%. Si je compare les chiffres qui semblent indiquer qu'il y a des partis qui ont le vent en poupe et qui sont montés, il faut le reconnaître, jusqu'à 3, tandis que les autres sont détruits puisqu'ils en sont restés à 16. Moi, personnellement, Je ne prends pas le chiffre de 3% pour honteux, surtout lorsqu'on commence. Je ne tiens pas du tout le chiffre de 16% pour mirifique, surtout lorsqu'on a du temps derrière soi. Mais je considère que, pour être tout à fait sérieux, que notre tâche est d'éclairer, d'expliquer, de justifier nos positions, de faire le grand tournant, le grand changement, mais en tentant d'entraîner avec nous ces 16%, 17%, 18%, et avec la gauche tout entière, les 45%, pourquoi pas un jour 50% des Français qui attendent de nous un message, sans doute jusqu'ici mal exprimé, et parfois même mal entendu. Seulement voilà, la gauche, elle revient de loin. Si en 1968, vous constatez tant de dégâts, où en était-elle en 1958? De quoi avons-nous hérité? Qu'avais-je dans les mains? Si on en a bien voulu un temps me reconnaître, une sorte de, comment dit-on, de leadership. Ben, la gauche de 1958, c'était ceux qui en grande majorité ont voté pour le général de Gaulle, pour les pleins pouvoirs au général de Gaulle, et pour sa constitution. Moi, je faisais partie de la minorité, je n'ai pas voté pour le général de Gaulle, je n'ai pas voté les pleins pouvoirs, je n'ai pas voté sa constitution. J'ai été battu d'ailleurs, en 1958. Mais l'Est-France a été battue. Tanguy Brisant a été battu, Pierre Cotte a été battu, je cite là les noms de ceux qui sont intervenus dans la séance d'investiture du général de Gaulle, parmi d'autres, évidemment. Très bien, ça ne nous a pas rendus malades. Et nous avons pris les mêmes risques 10 ans plus tard. Des risques qui ont failli, au demeurant, se vérifier. Enfin, pas pour moi, mais pour quelques autres. Déchirement profond. Quand je vous entends dire, le problème pour nous n'est pas de mobiliser nos forces dans le combat contre le gaullisme, mais dans l'édification du socialisme. Pouvez-vous imaginer que le socialisme ait la moindre chance si le gaullisme s'enracine? De Gaulle, c'est l'alibi de l'argent. C'est l'alibi des toutes puissances de quelques-uns. C'est l'alibi de la police. C'est l'alibi des services secrets. C'est l'alibi de la propagande totalitaire. C'est l'alibi du renvoi des journalistes courageux. C'est l'alibi de tous les manquements aux règles fondamentales, sans lesquelles il n'y a ni démocratie, ni socialisme. Et vous voudriez passer par-dessus sans vous en occuper, comme s'il ne comptait pas, alors qu'il est même, pour l'instant, au-delà de lui-même, en train de créer les structures qui permettront à ce qu'il a construit de durer au-delà de lui-même. Si nous étions en 1793, je changerais de ton et je dirais comme ça devant vous tous, en montrant tel et tel d'entre vous, toi, tu es déjà gagné par le gaullisme. Et tu camoufles ton ralliement derrière du gauchisme. Dire que le mouvement de mai a ébranlé le régime du général de Gaulle, alors que la manière dont il a été exploité par ceux qui se sont emparés de lui politiquement l'a consolidé. Les étudiants que je connais aussi et qui provenaient de tous les milieux. C'était même ce qui est le plus admirable. Je vois cette jeune fille extraordinairement croyante, catholique, qui d'un dévouement surprenant, le genre de fille qui passe 15 jours à Lourdes pour porter des malades et voir les plus affreuses misères dans la saleté, la crasse et l'horreur des yeux. Bon, on peut juger comme on veut, c'est quand même pas mal quand on appartient à une famille bourgeoise et qu'on peut faire autre chose. Et qui a refusé, admissible, avec ses camarades, de passer l'agrégation de mathématiques, parce qu'elle était plus contestataire encore que ne pouvait l'être Cohn-Bendit en Sardaigne. Cette jeune fille, elle n'est pas anarchiste, elle n'est pas pour le drapeau noir. Moi, je ne suis pas contre, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une reconstitution historique ou d'une manifestation folklorique. Mais lorsqu'il s'agit de conquérir l'État, vraiment, c'est pas sérieux. Cette jeune fille, elle a refusé de passer la chance de sa vie avec d'autres camarades, tandis que d'autres passaient, évidemment, étaient reçus. Elle est représentative de milliers, de dizaines de milliers de jeunes en révolte totale contre la société, mais qui ne se reconnaissent pas dans le langage, le galimatias et l'imbécilité violente et totalitaire d'un certain nombre de ceux qui ont voulu s'emparer du mouvement. Oui, j'ai envie de dire à cette gauche-là que la gauche du galimatias, que la gauche de la confusion d'esprit et des mots, que la gauche de la violence et de la sottise n'est pas la gauche à laquelle je me rallie. Ce n'est pas non plus la gauche que demain, à ma modeste mesure, je servirai. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant pour nous? Il s'agit évidemment de rénover la gauche, autant que possible à partir de la Convention des institutions républicaines. Je disais tout à l'heure dans quel état était la gauche. J'ai cité la Constitution, l'investiture, les pleins pouvoirs. J'aurais pu continuer. 1962. Voilà que cette fraction de la gauche se brouille avec le régime, se sépare du général de Gaulle. Pourquoi faire en 1962? Pour faire le cartel des noms avec la droite. Permettez-moi de vous dire que j'ai été l'adversaire du cartel des noms et j'étais candidat aux élections législatives contre le cartel des noms, contre le gaullisme et aussi contre le Parti communiste en 1962 et que j'ai été malgré tout élu. À partir de là, il faut tout de même se rendre compte qu'il existe une certaine continuité dans l'action de l'équipe qui, avec moi, a mené notre action au cours de ces dernières années. Déchirement supplémentaire, sans parler des déchirements politiques ou idéologiques, notamment la divergence de vues sur la construction de l'Europe entre la gauche naissante ou renaissante, la gauche nouvelle, dont je me sens très proche, je dois dire, malgré la dureté de mes propos, parce que je ne confonds pas ce qui ne doit pas être confondu. Vous dirais-je, par exemple, que j'ai trouvé rarement document aussi positif, aussi réaliste, aussi utile, et dont je me sens aussi proche que celui que j'ai reçu il y a 48 heures de Gilles Martinet sur la définition du pouvoir socialiste. Donc je vous demande de ne pas confondre dans mes appréciations entre ce que je trouve juste, positif, utile, fécond, et ce que je trouve ruineux pour la gauche. Alors, d'où vient-elle encore, cette gauche? Où en est-elle? Quelles sont ses facultés d'union? Je n'ai parlé pour l'instant que de la gauche non communiste. Et la relation de la gauche non-communiste avec la gauche communiste. 1947, les CRS, autour des mineurs. J'étais dans le gouvernement, je m'en souviens. Cela a fait partie des éléments des attaques contre moi dans la formidable propagande qui s'est développée. Et il est évident que je n'avais pas, à 30 ans, beaucoup d'action sur le gouvernement. Et au demeurant, j'étais ministre des anciens combattants. Mais j'ai vu cela moi-même. J'ai vu ça moi-même. Bon, la rupture, le Parti communiste pensant qu'il pourrait s'emparer du pouvoir et la gauche démocratique s'y refusant. 1949, la rupture autour du pacte atlantique et du pacte de Varsovie. La rupture totale en politique extérieure. Voilà ce que c'était que la gauche, unie pour la dernière fois et pour 6 semaines en 1936 et en profondeur pour plus longtemps dans les rangs de la résistance. Mais pas sous une expression politique. Voilà ce que c'était que la gauche en 1965. Et sans exagérer le mérite d'aucun, y compris moi, dans cette affaire, imaginez ce qu'en 3 ans il a fallu faire pour tenter de convaincre, pour dire, mais voilà, non seulement vous disparaîtrez, nous disparaîtrons, ce qui n'aurait pas beaucoup d'importance, mais tout ce poids accumulé depuis tant et tant de siècles, pour qu'enfin le peuple parvienne à son avènement dans ce qu'il a de meilleur par ses producteurs et par ses travailleurs. Cette espérance qui, alors là, nous réunit tous, nous y croyons. Nous en sommes comptables. Et ceci se transforme en discussion de pondération. Et ceci se transforme en pesée subtile au quart de poil entre des gens qui ne représentent rien, sinon la dernière secte dont on se sent le gardien. Les nôtres, comme les autres, ont tous obéi à ce réflexe. Nous sommes 6 au bureau politique de la Fédération. Les 5 autres sont là avec moi. Ils savent bien ce qu'il m'a fallu dire de 8 jours en 8 jours. C'est ce qui fait que parfois, il m'arrive d'accepter difficilement de me voir reprocher de ne pas avoir fait ce que l'on ne voulait pas que je fisse. C'est-à-dire unir la Fédération davantage, d'abord sur des données doctrinales. Mais enfin, qui est-ce qui peut penser ici que nous sommes des pragmatiques ou bien alors des ânes battés. incapable de nous intéresser ou de comprendre quoi que ce soit à la doctrine. La doctrine, eh bien oui, l'idéal, l'objectif, traduit en langage économique et social, en langage institutionnel, c'est nécessaire. Mais nous avons passé notre temps à ça. Pensez-vous que prenant la gauche telle qu'elle était, il était possible, comme ça, en un tournement, de l'en convaincre? Chacun fermé derrière ses barrières, son vocabulaire, ses haines recuites à travers un demi-siècle de socialisme appliqué toujours à contre-temps, à travers et à contre-sens, lorsqu'il triomphait. Voilà, au regard des expériences internationales aussi, ce qu'il convenait de relever. Quant au programme, alors pitié, je croule sous les dossiers. Programme, je peux, oui, tenez. Je crois que, puisque les journaux annonçaient ma retraite, il me reste une profession. Je vais me présenter à l'ORTF et j'accepte le nouveau concours qui durera 5 semaines avec 5 millions au bout sur le programme de la gauche. Je suis imbattable. On ne souffre pas de l'absence de programme, on en a trop. Tout le monde a son idée. Mais pour être tout à fait sérieux, soit au contre-gouvernement, soit même à la fédération, je dois le dire, il existe surtout les problèmes importants, trop négligés par qui? Par nous tous, lorsque nous nous retrouvons à ce qu'on appelle le sommet, par une sorte de crainte de donner un avantage à l'autre. Exemple, je le répète, la plateforme commune du mois de février 1968. Croyez-vous que je n'ai pas perçu, au moment même, de quelle manière son excellent contenu perdait l'essentiel de sa valeur, d'abord parce qu'il était exprimé dans un langage convenu, vieillot, désuet et fatigué, et parce que si ce contenu était excellent, il était tellement insuffisant au regard des problèmes qui intéressent l'homme, l'urbanisation, l'éducation nationale, la politique de l'atome, la politique de la pollution de l'air, de l'eau, enfin, tous ces malheurs, tous ces dangers, ou toutes ces merveilles qui sollicitent notre attention. Croyez-vous que nous ne l'ayons pas perçu? Mais où était la gauche? Et d'où venait-elle? Je veux dire, mais le régime a été habile en coupant les jarrets à l'entreprise, c'est difficile, dès le mois de mai, juin 1968, oui. Je ne conteste pas l'habileté de ce régime. Qu'on me donne les mêmes moyens, je pourrais quand même aussi être aussi habile. Ceci dit, je ne les emploierai pas. Je ne les emploierai pas. Qu'on nous donne en effet les moyens, à travers les années, la doctrine de l'UDR. Je l'ai dit un jour dans une émission, je l'ai fait chercher tout de même pour enfin savoir quelque chose. C'était un prospectus. Un prospectus recto verso, dans lequel on annonçait qu'il fallait relever la condition ouvrière, améliorer la condition paysanne, ne pas écraser d'impôts les classes libérales, enfin, une série, un sottisier admirable, qui vaut tout de même 350 députés. Il nous faut un parti nouveau. Je suis du côté de ceux qui le veulent et qui feront tout pour le construire. Il nous faut un parti nouveau et un parti socialiste nouveau. Ce n'est... Les conditions fleurissent, chacun à la sienne. Moi, je n'en ai que deux. Je veux que ce parti socialiste nouveau soit nouveau et socialiste. Nouveau, eh bien, oui, il faut faire plus confiance à ceux qui ne sont pas encore des nôtres, qu'à ceux qui y sont déjà, parce que la petite cohorte a rempli sa tâche, mais doit aujourd'hui, ayant assuré le temps qu'il fallait, doit permettre la relève. Et pas la relève par homme pour homme, au coefficient 10, 100 ou 1000. Il faut un parti nouveau. Et au sein de la fédération, les formations politiques, c'est normal, se sont usées à la tâche. 1965, 1966, 1967, jusqu'au mois d'octobre 1967, nous avons été en constante progression. Et tous les sondages ont montré que nous avions la majorité de la jeunesse qui allait se révolter quelques mois plus tard. Par quel extraordinaire événement, En 6 mois, tout cela a-t-il été, sinon détruit, tout au moins si profondément atteint. Parce qu'au cours des derniers mois de 1967 et des premiers mois de 1968, soudain, par notre faute à tous, et par la mienne aussi sans doute, ce qui, pendant un an et demi, était apparu comme une construction nouvelle, l'emportant sur les errements anciens, sur les mauvaises habitudes, sur les fatigues, les lassitudes ou sur les sectes, a marqué le pas et a semblé, au contraire, s'identifier à une politique traditionnelle qui, déjà, il y a 20 ans, était au lendemain de la guerre et des programmes de la résistance dépassés. Eh bien, il faut un parti nouveau. Avec qui ? Soyons simples, avec qui il voudra et qui se soumettra aux exigences communes et la discipline, entendu. Avec qui le voudra ? N'énumérez pas. Qui le voudra ? Nous nous déclarons aujourd'hui volontaires pour en être. Sans aucun rôle prééminent, sans prétendre être la phalange du nouvel évangile, mais en étant des artisans honnêtes et dévoués à la tâche du Parti socialiste nouveau, avec qui voudra. Cependant, à côté de nous, existe précisément un Parti socialiste. Ce Parti socialiste a ses tares et ses carences. Il a, on aurait dû le dire davantage, il a aussi ses vertus. On ne peut pas confondre un certain nombre d'erreurs politiques qu'il m'est arrivé de condamner avec le comportement humain de militants qui, dans les circonstances les plus difficiles, ont montré bien souvent, plus que ceux d'entre nous qui leur font la leçon, qu'ils étaient capables de passer du temps avec beaucoup de vigilance pour la défense de leurs idées et, le cas échéant, pour participer à l'action. À la condition que le premier de nos partenaires qui s'avance sur le chemin, que le Parti socialiste et ses filiaux, ne fassent pas de confusion. S'il s'agit seulement de mettre de la peinture sur le banc vermoulu, nous ne serons pas la peinture. Nous n'avons pas le droit, pour une perspective désirable, nous n'avons pas le droit de mettre en cause les chances authentiques de rénovation de la gauche. Nous n'avons pas le droit, même par désir, d'un parti nouveau, dans le meilleur esprit, avec le Parti socialiste, si l'on ne modifie pas les structures, les hommes, les méthodes et certaines façons d'aborder les problèmes, nous n'avons pas le droit de nous enfoncer avec eux dans les marécages de l'impuissance. Voilà ce qu'il convient de leur dire. Êtes-vous sûr qu'ils ne sont pas nombreux à désirer aussi ce langage ou être prêts à l'employer, à la condition que nous ne leur donnions pas le sentiment que nous sommes des donneurs de leçons perpétuelles alors que nous pourrions en recevoir.